Salut à tous, bienvenue pour l'épisode 6 de On se dit les choses, le podcast de la rédaction sportive de Pyrénées Presse, la République des Pyrénées et l'éclair. Vincent Martinelli pour vous servir. Bonjour à tous, rebonjour à tous, rebonjour à tous. Autour de la table aujourd'hui, le bûcheron de Mialos qui est parmi nous après ses 8 parts de galettes. Jean Forêt, bonjour Jean.
Bonjour les amis.
Une fois de plus, un régal pour les tympans. Merci beaucoup à ses côtés. El Nino, Jérôme Carrère.
Bien le bonjour.
Ça va, voilà, ça c'est de la mesure. Bravo, Jérôme. En face, un habitué, le pistolero du 47, Grégory Notor. Bonjour Greg.
Bonjour à tous et bonjour à Stéphane Ruffier de retour dans les Pyrénées-Atlantiques.
Un de nos fidèles auditeurs, c'est vrai. Et à vos côtés, la recrue phare de ce mercato de janvier. Le king du Big Bill, on peut le présenter un peu comme ça. Bref, la pépite de Bernadette, Christian Saint-Pé. Bonjour Christian.
Bonjour à toutes et à tous.
Bien, 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 notre public féminin, évidemment, vous ne l'avez pas oublié. Nous commençons par cette actu riche et toujours aussi riche. C'est le paradoxe un peu, parce que tout s'arrête, on va nous remettre un couvre-feu. Bref, on imagine, mais nous, ça joue beaucoup. Ce samedi soir, ça va être un sacré chassé croisé, en effet, puisque Pau FC, Section Paloise et Lambernais seront sur le pont. On va commencer par le petit nouveau de cette assemblée, Christian, bien évidemment. Le Pau FC, qui donc se déplace à Rodez samedi soir. On a déjà éclusé le thème du danger qui plane au-dessus du Pau FC, mais vous êtes amusé cette semaine à faire un petit bilan un peu de cette équipe paloise à mi-saison. Ça paraît dans le journal de vendredi. Qu'est-ce que vous pouvez déjà nous en dire? Déjà, vous en sortez comment de ce bilan? Le moral au fond des chaussettes ou confiant?
Si on regarde la dynamique des dernières semaines, on a plutôt le moral dans les chaussettes. Avec Pau qui est la plus mauvaise équipe depuis 6 journées, en compagnie de Châteauroux. Et deux équipes qu'on retrouve à la fin du classement. Donc, c'est pas reluisant. Ça peut difficilement être pire. Donc, on va quand même être plein d'espoir pour ce début d'année avec un tournant, ce début de la phase retour, hein, ce samedi, un tournant à Rodez, parce que aujourd'hui, si on regarde un peu, les seules équipes avec qui Pau est en mesure de lutter, c'est Châteauroux et Rodez, justement. Nancy semble peut-être un peu mieux. Il y a surtout des investisseurs qui vont mettre la main en porte-monnaie et qui vont recruter donc sévère au mercato. D'ailleurs, le mercato, on vous en parle un peu aussi dans cette édition de vendredi, avec
oui,
simplement.
Vous avez rencontré l'éminence grise du Nouste-Camp, Joël Lopez.
Voilà, qui s'occupe donc du sportif.
Vous en avez-tu dit ?
Alors, sans trop en dévoiler, on peut dire qu'il y aura du mouvement d'ici la semaine prochaine et la venue de Troyes, qui est actuellement donc aux avant-postes de la Ligue 2, qui ce sera un gros match. Et il y aura de nouveaux joueurs d'ici là au Pau FC qui vont arriver, donc on suit ça. Il y aura
ce qui veut dire que les départs anticipés de Camille Soko ou Jarjus, c'était aussi une manière de faire de la place au nouveau, au futur.
On peut effectivement le voir comme ça. Et la série des départs n'est pas terminée.
Il y a de l'annonce en perspective.
Le coach.
Oui, Jean Forêt, donc une question de Jean Forêt pour Christian peut-être.
Non, c'était une petite blagounette.
Une petite blagounette.
Oui, parce que le coach a été au contraire conforté dans sa mission, puisqu'il est sur la même longueur d'onde que le staff et les joueurs adhèrent.
Heureusement.
L'actu chaude pour le Pau FC, c'est aussi ce match. Là, je me tourne vers Greg, vous les avez vus jouer hein, ces dernières semaines. On a vu que l'enchaînement des matchs était difficile. Là, ils en ont 3 à jouer en une semaine, donc 2 contre Rodez. C'est le croisement, le carrefour de la mort pour le Pau FC dans cette saison.
Oui, là je pense que c'est un peu le carrefour, c'est ça, c'est un peu à qui tout doule. C'était 2 matchs contre des concurrents directs, Ajaccio. Ils ont pris 4 buts contre la pire attaque de Ligue 2 jusque-là. Ils ont pris 3 buts contre Chambly, un ancien du National qui a eu le temps d'apprendre un petit peu l'an dernier. Là, c'est Rodez, un autre ancien du National, c'est leur championnat. Et c'est le président Bernard Laporte-Frey qui l'avait dit, si on ne bat pas ces équipes-là, on n'a rien à faire en Ligue 2. Voilà, je crois que c'est la preuve par l'exemple.
Avec des ajustements dans l'effectif, est-ce qu'on peut s'y attendre du coup? Parce que beaucoup de matchs à jouer en peu de temps, du coup rotation obligatoire ou pas?
Ils avaient dit que de toute façon ça serait un peu un des enseignements de la phase aller, qui n'avait pas eu assez de rotation. Il a fait un coup avec le changement du gardien titulaire Alexandre Liro par Benjamin Bertrand. jusque-là son suppléant, bon, qui a pris 3 buts, donc c'était peut-être pas le point central des progrès palois. De la clé de la progression paloise.
Le coup de poker a fait long feu.
Le coup de poker a pas été suivi d'effet, en tout cas, temporairement. On va voir si le coup de poker sera reconduit contre Rodez. Et puis après, il y a des joueurs qui sont pas forcément à leur niveau et d'autres joueurs qui vont mériter peut-être d'être relancés à l'image de Damon Bransé.
D'accord, donc une espèce de redistribution des cartes qui ressemble un peu à celle à laquelle on a assisté dans d'autres proportions à la section paloise. Avec quelques retours, quelques mains tendues. La section paloise qui, elle aussi, se retrouve à un carrefour, Jérôme. Bon, le carrefour ne mène pas très loin, il mène à Bayonne.
Justement.
C'est ça. Donc, virage serré.
Virage très serré chez les voisins basques. Alors, évidemment, il y a cette notion de derby. Bon, sans public, les joueurs nous l'ont dit, sans public, c'est quand même un peu moins fun. Il n'y a pas les petits vieux habituels autour des talanquaires pour la semaine d'entraînement qui disent « Allez, il faut battre les Basques !» Ça, ce folklore-là n'existe pas.
Le petit vieux au bord de la
très belle imitation, on va le renoter. Mais malgré tout, effectivement, la section paloise qui commence à être dans une situation où il va falloir gagner, ramener des points de Bayonne. Et comme
si je puis me permettre de vous interrompre, c'est pas qu'ils commencent à être, c'est qu'ils le sont. Mais est-ce qu'ils l'ont intégré vraiment
Ouais, ils l'ont intégré. Eliott Roudil notamment nous a expliqué, nous a dit en fait, si on gagne pas à Bayonne, le problème c'est qu'on va avoir la tête au fond du sac. Et pour attaquer Brive la semaine d'après, c'est quand même pas l'idéal. Donc l'idée c'est de partir sur les fameuses dynamiques. On parle souvent de Thomas Domingo, essayer quand même de renclencher une dynamique un peu positive, même si c'est vrai que quand on est au centre d'entraînement, on sent pas pour l'instant ce poids, cette menace qui est là. Alors Lucaré, qui a été nommé capitaine la semaine dernière, tient un discours justement où il dit « si on était vraiment à la rue, ben, je serais vraiment inquiet ». Pour l'instant, on l'est pas, donc je suis pas forcément inquiet, mais malgré tout, il est conscient de la situation. C'est un peu compliqué à imaginer en fait pour nous. C'est vrai que des fois on se dit on aimerait bien voir comme a fait Camille Lopez à Clermont, envoyer un grand coup de gueule, et pour l'instant c'est pas encore comme ça que ça se passe.
D'ailleurs allez je lance un débat dans le débat, attendez.
C'était simplement pour dire que ça peut se révéler un problème, parce que vous avez des équipes qui sont formatées pour jouer le maintien, on peut penser à Brive par exemple, on peut penser aussi à l'Aviron Bayonnais, et il y a d'autres équipes qui s'attendaient à mieux et qui finalement ne sont pas forcément conscientes tout à fait de la situation, et il faudrait pas que ça arrive à la section quoi.
Bah, la section est quand même... ça vous inquiète, Christian, justement, ce discours-là.
Ah, on parlait de la dynamique récente du POFC, celle de la section m'inquiète aussi depuis pas mal de mois, effectivement. Et avec, sur plusieurs matchs, le sentiment, effectivement, qui se voit peut-être un peu trop beau, ou qui se voyait en tout cas un peu trop beau. Et là, en tout cas, ils sont dos au mur. Hein. C'est plus que jamais le moment de prendre leur destin en main, sinon la 13e place leur semble promise.
Et vous, Greg, ça vous inquiète ?
Ça fait quand même 3 ans qu'ils jouent le maintien, puisque quand Simon Manix est parti, Nicolas Godignon et Frédéric Mancard ont assuré l'intérim, Pau était en course pour ce maintien, a dû battre Grenoble pour le décrocher. Et l'an dernier, quand la saison s'est interrompue, Pau était juste au-dessus de la ligne de flottaison. Cette année, la saison était bien partie, mais depuis l'automne, Pau sait que l'objectif prioritaire qu'avait désigné avec assez de lucidité et d'humilité Nicolas Godignon en début de saison, c'était vraiment le maintien.
D'accord.
Donc finalement, est-ce que ça a vraiment changé depuis 3 ans ? Je ne suis pas persuadé.
Et vous, Jean, ça vous inquiète ?
Les déboires de la section ne m'inquiètent pas trop, puisque effectivement, comme le disait Greg, ça fait 3 ans qu'on le voit quand même du rêve en début de saison. C'est toujours le top 6 annoncé. Et puis, dès qu'on arrive en décembre, on joue le maintien. Et puis, les saisons se finissent ou ne se finissent pas. Et on se retrouve toujours avec les mêmes problèmes. Mais je rejoins quand même un peu Christian, à savoir, est-ce que cette section est vraiment formatée pour se battre dans ce mini-championnat pour le maintien ? La grande chance de la section, c'est d'avoir Agen derrière qui ne gagne pas un match. Donc ça devrait se jouer, ils vont être 2-3 là, à se dépatouiller de tout ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, ils se sont peut-être vus un peu trop beau à un moment donné. Et là, je pense que dans la tête, il faut réajuster tout ça pour se mettre en mobilisation, maintien, survie et sortir les crocs. Et on en saura plus, évidemment, après les deux matchs à venir, évidemment.
Donc première indication contre Bayonne, avec quand même des motifs de retrouver un petit peu le sourire. Il y a de belles histoires dans ce marasme.
Il y a une très très belle histoire, notamment, ouais, c'est celle de Jesse Mogg, donc l'arrière australien Jesse Mogg, qui s'était blessé au tibia. On a suivi dans nos colonnes toutes ses rechutes, il en a eu beaucoup. Il a été opéré, réopéré 3-4 fois, et là il était de retour depuis un mois, très affûté, on l'a vu très très affûté. Et là, il devrait normalement faire son apparition dans le groupe pour se rendre du côté de Bayonne. Donc c'est quand même vraiment la très belle histoire, avec Geoffrey Lannepetit qui nous racontait qu'il y a 6 mois, il lui faisait encore des passes. Il devait rester assis tous les deux parce qu'il ne pouvait pas forcément encore courir. En gros, bah, elle était quasiment perdue pour le rugby et là, bah, il semble en tout cas en bonne forme et en canne.
Donc un Australien en super sub de la section Palois, ça serait un scénario pas mal. D'autant plus qu'il y a un autre Australien qui lui, pour le coup, fait carrément plaisir depuis qu'il est là, c'est Matt Phillips en deuxième ligne. Greg, vous êtes assis sur le canapé à côté de lui. Déjà physiquement, il est impressionnant et vous l'avez trouvé comment ce garçon? Parce que vous l'aurez dans le journal
demain. Pas mal,
il contracte
un peu à mon avis, mais bon, non, c'est bien. Non, mais on l'avait présenté comme le cadeau de Noël de la section et c'est un super cadeau. Je pense que c'est cadeau de Noël, anniversaire, fête, baptême, communion, il fait tout. Premier ballon de son premier match, un énorme contre en touche. Première course, il est au soutien de Lucaret contre le Stade français. Ça gagne, il fait vraiment un match colossal, il a encore été très 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 bon dans tous les domaines contre Clermont. Voilà, ils ont recruté un Wallabies en puissance, 26 ans dans la force de l'âge, là c'est vraiment un top joueur qui arrive avec 6 mois de contrat, qui a envie de se faire plaisir, qui est concentré, qui a envie de découvrir l'Europe, de croquer à pleines dents dans l'expérience. La section était vraiment inspirée là sur le coup.
Bon, le mauvais côté, c'est qu'avec toutes ces qualités, vous nous annoncez en creux qu'il ne sera plus pas loin dans 6 mois. Quoi.
Ah non, je dis qu'il arrive...
Donc c'est la traduction que j'en fais avec un soupçon de mauvaise foi.
Ah oui, avec un soupçon de mauvaise foi. Non, je dis qu'il arrive avec des ambitions, avec l'envie de jouer. Et c'est sûr qu'il faudra que le club soit capable d'être à la hauteur des ambitions de ce joueur. Mais en tout cas, il est vraiment heureux de découvrir... l'hiver français, de découvrir les Pyrénées, d'arriver dans un club où il y a des Australiens qui sont là pour le guider et l'aider à s'acclimater. Non, c'est vraiment un joueur très positif et qui bah, il le dit lui-même, je suis pas timide. On m'entend quand je suis là et ça lui va bien.
Je confirme, à l'entraînement ce matin, il en a remis quelques heures en place. Il n'hésite pas. Il est là que depuis 3 semaines, mais c'est vrai qu'il prend sa part dans l'équipe, dans le collectif. Comme Toumou Amanou d'ailleurs aussi, dans un autre style, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est deux joueurs qui font bonne impression.
De plus-value.
D'accord, et une plus-value, je me souviens, vous parliez de ce contre-en-touche contre le Stade français, on aurait dit un pivot qui allait gober un rebond sous un panier, ce qui me permettait, subtile transition, de parler du basket, car oui, du basket, il y en a toujours, une fois par mois, c'est un petit rythme, c'est tranquille.
Ouais, c'est bien, une fois par mois, là je suis chaud, là j'ai fait mon petit footing, je suis prêt.
Oui, accessoirement, vous risquez pas la blessure musculaire, mon cher Jean, même si samedi soir contre Bourg, contre Bourg, oui, parce que j'ai l'impression d'en avoir parlé il n'y a pas longtemps.
Non, c'était Strasbourg la dernière fois.
Strasbourg, voilà, d'où la confusion, merci. Donc contre Bourg, retour aux affaires, avec un big man de plus dans la raquette, Nicolas De Jong.
Oui, Nicolas De Jong de retour donc à l'élan après s'être soigné le ménisque gauche, après avoir été opéré du ménisque gauche, qui s'était blessé cet automne après 9 mois de convalescence à soigner ses ligaments croisés droits.
C'est le Jesse Mock du Palais des Sports.
Oui, un peu ça. Donc effectivement, et pour ce match important pour l'élan et pour Bourg aussi, puisque là on a deux équipes quand même aux dynamiques identiques, 4 défaites de suite pour l'élan en championnat. Et 5 pour Bourg d'affilée, championnat et Coupe d'Europe comprise, l'Eurocup, puisqu'ils ont pris 30 points, je crois, mardi soir au Monténégro, à Podgorica. Donc deux équipes qui vont chercher à se relancer en championnat. Pour l'élan, c'est la grande inconnue. Ils n'ont pas joué depuis un mois à Strasbourg, où ils avaient été minables. La semaine avant, ça avait été tout aussi lamentable à Orléans. Donc on va voir ce que ça va donner samedi. Laurent Villa espère bénéficier un petit peu de l'envie des joueurs, un petit peu comme ce qu'ils avaient montré face à Monaco, un match qui arrivait à peu près 3 semaines, pareil, de No Man's Land. Et ils étaient passés à une possession de battre l'équipe de Monaco, la très forte équipe de Monaco. Voilà, il espère qu'il y aura cette envie, cette agressivité d'entrée de match qui permettra à son équipe de continuer à faire douter Bourg et gagner ce match.
Parce qu'elle est où, cette équipe, la vraie valeur de cette équipe, selon vous? On la cherche toujours. C'est toujours aussi dur à dire, d'ailleurs, avec un match par mois, mais entre celle qui va chatouiller les orteils de Monaco et celle qui se fait croquer à Strasbourg.
Ouais, difficile à évaluer le niveau de l'élan, qui va là, pour la première fois, sera donc au complet, avec la configuration intérieure, donc... Qui a fière allure, hein, puisque l'intérieur entre De Jong, Dramé, Corneli et Ndiaye, c'est complémentaire, c'est grand, ça court, ça shoot, il peut faire jouer un en 4, l'autre en 5, enfin, s'adapter à peu près à tous les types de configurations. Un mois de plus avec Bibbins, qui a dû prendre vraiment la température du truc, du tempo, du collectif. Donc cette équipe, pour moi, à plein régime, peut viser la 10-12e place, quoi, 10e, allez.
D'accord. et dans l'immédiat, fêter dignement les 30 ans de ce palais des sports. Donc vous nous avez narré les aventures cette semaine avec
nous
talent.
Nous a régalé.
Avec talent, plus que nous a régalé, plus que la galette d'ailleurs qu'on a sur la table actuellement. Donc, désolé pour les bruits de mastication que vous entendrez de ci, de là, de ruminage, voilà. Oui, donc c'est symboliquement aussi un...
Oui, symboliquement, c'est oui, par rapport aux 30 ans du palais.
Oui, oui, puis bon, à ça, l'atmosphère générale, pour dire qu'ils sont toujours là.
Je pense
que
les joueurs, ça leur passe un peu au-dessus, les 30 ans du palais.
Non, mais là, je pense surtout à la, pour donner une
couleur
à cette saison bizarre.
Puisque les, là, en ce moment, au niveau des dirigeants des clubs de basket, il y a deux écoles. Il y a ceux qui veulent mettre en pause jusqu'au mois de mars et tout arrêter, le temps de retrouver un petit peu de public et de partenaires dans les salles. Si tant est qu'on en retrouve au mois de mars, on est loin d'en être assuré aujourd'hui. Et l'autre école dans laquelle on retrouve les dirigeants actuels de l'Élan, c'est de vouloir jouer coûte que coûte, même à huis clos, donc au rythme au mieux, ce serait donc ce match de samedi à Bourg. Et ensuite, il y aurait peut-être deux matchs au mieux dans la première quinzaine de février, un match à domicile, un match à l'extérieur, sachant que fin février, c'est réservé aux fenêtres internationales, puisque l'équipe de France a deux matchs de qualif.
D'accord. Heureusement qu'il y a la coulisse, un peu pour nous occuper aussi, hein, parce que... Si la saison ne suffisait pas en soi, l'Élan doit aussi gérer une succession annoncée un peu par la mairie qui veut des repreneurs pour le club. Est-ce que ça frétille derrière ces portes bunkérisées du Palais des Sports ?
Alors derrière les portes du Palais des Sports, je n'ai pas l'impression que ça frétille beaucoup, mais je pense qu'ailleurs ça frétille beaucoup plus, notamment...
Plus en centre-ville par exemple ?
Plus en centre-ville, Place Royale, je pense que ça a frétillé, ou ça frétille actuellement, ou ça va frétiller. Mais François Bayrou a été très clair, c'est l'heure de revendre le club, de basculer de SEM en société anonyme, donc de refourguer un petit peu la grande bestiole à un privé, à des privés, à on ne sait pas à qui, mais à quelqu'un qui aura de l'argent, ça c'est sûr. C'est la volonté première du maire de Pau, François Bayrou, de lâcher le club et de le donner à quelqu'un qui soit financièrement solide pour assurer la pérennité du club.
Avec des grandes figures, j'imagine aussi, parce qu'on a entendu Boris Diaw.
On a entendu Boris Diaw, on a surtout entendu son nom, parce que lui, on ne l'a absolument pas entendu. Boris Diaw, oui, qui, je vais utiliser le conditionnel, qui aurait été plus ou moins approché par des anciens, puisqu'il se murmure que certains anciens se sont rencontrés pour ébaucher quelque chose qui pourrait permettre à une reprise du club, alors articulée autour de Simon Darnozan, je crois bien. Il y aurait Jérôme Thion aussi dans la combine, l'ancien rugbyman du BO, ancien basketteur, rappelons-le, qui a été un espoir à l'Élan avant de basculer sur le rugby, sur les conseils avisés de Freddy Hufnagel, son entraîneur en espoir à l'époque. Donc voilà, il y a un noyau d'anciens, une dizaine qui se sont regroupés, qui ont fait un tour de table, mais malheureusement, on a beau avoir de très très bonnes idées, à un moment donné, il faut mettre de la caillasse sur la table. Et là, je crois qu'ils ont été... c'est le principal écueil à une reprise... on va dire, de ces anciens-là, c'est l'argent. Je crois qu'ils sont toujours, ils ont toujours espoir. Attendons, sachant qu'il y a aussi d'autres projets qui grenouillent par ailleurs. Peut-être des pistes étrangères, sait-on jamais.
En tout cas, les prochains jours vont être intéressants de ce point de vue-là.
Prochains jours, oui, prochaine semaine, oui, mais enfin, ça devrait... Je peux quasiment affirmer qu'au mois de mars, tout sera réglé.
D'accord.
En tout cas, c'est un serpent de mer qui permettra aux contribuables de Pau et de son agglomération de pousser en ouf de soulagement.
La voix de la raison, messieurs, dames, la voix de la raison. Christian Saint-Péder, ça tombe
puisque
bien.
Puisque on sait que les sociétés d'économie mixte sont aujourd'hui...
J'allais, moi, vous lancer sur une...
Dépasser en sport.
Je tiens à rappeler que je suis le seul autour de la table à habiter à Pau et à payer mes impôts avec Greg, pardon.
Monsieur Laglo, donc arrêtez de nous la jouer, hein, parce que nous aussi on finance, hein. Mince. Christian, oui, vous êtes un peu le Jean-Paul Olivier de ce service. Symboliquement, non, symboliquement.
Je ne suis pas sûr que ce soit un compliment.
Mais si, moi j'adore le Tour de France, j'y passe tous mes étés, donc, et mes mois de septembre depuis peu même. Symboliquement, un tel changement à l'Élan Bernais, nouvelle direction, nouveau possible changement de propriétaire, tout ça reste du conditionnel, je le dis bien, jusqu'au mois de mars au moins, si j'ai bien compris. Ça serait quand même une sacrée page qui se tournerait, hein, pour l'histoire du sport palois.
Absolument, ça... Quelque part, peut-être que ça peut rejoindre un degré moindre, mais le passage d'Orthez à Pau, je regarde Jean en même temps.
Oui, en termes de... tout dépend qui reprend le club. Mais oui, en termes de petite révolution, ça peut être plus qu'une page qui se tourne. Là, on peut entamer un nouveau bouquin. Ouais.
Très bien, on a hâte de le feuilleter en tout cas. Maintenant, on va sortir le... Ah, Greg, une prise de parole au fond de la salle.
Non, je voulais savoir s'il y aurait des chutes à l'arrière du coup.
Des chutes à l'arrière, bah, si on est fidèle à la thématique du Tour de France, il y en aura sans doute, oui. Mais
oui, il peut y avoir quelques chutes à l'arrière, ouais. Et à l'avant surtout.
Nous ouvrons la dernière page de ce podcast, le traditionnel loto, non, c'est presque loto sportif, ouais, les pronos. Je rappelle qu'il y avait un peu un bisbille entre Jérôme Carrère et Jean Forêt la semaine dernière au sujet des tactiques des uns et des autres. Vous vous êtes vu beau quand la section menait 22-7. Vous voyez la victoire de la section contre Clermont. Et finalement, c'est Jean Forêt qui, une fois de plus, l'a emporté sur son pragmatisme. Donc, quelle sera votre attitude, Jérôme, ce week-end à Bayonne?
Je vais pas mentir, j'ai fait un peu le canard en tribune de presse avec Greg quand il menait 22-7. J'ai dit, bon, regarde, Jean, il connaît vraiment rien au rugby. Bon, résultat.
J'en suis peut-être parce quitte. Qu'il y connaît rien, justement.
J'en suis quitte pour clouer mon bec. À Bayonne, tiens, que va-t-il se passer à Bayonne? Moi, je vois une petite défaite de la section paloise. Hein. 20 à 18.
20 à 18, une petite défaite bonifiée, mais quand même des points. Donc c'est un match modérément ouvert que vous nous annoncez. Quoi. C'est pas un 6-3 comme je l'ai vu, c'était l'année dernière.
Non, c'était 9-6 l'an dernier. 9-6, ouais. 9-6, ouais, un match absolument atroce dans des conditions atroces aussi. Mmh. Voilà. Mais bon, un match qu'ils avaient gagné quand même et ça avait fait du bien. À ce moment-là, ils étaient remontés à la 3ème place du top 14. Après, ça s'est un peu bien passé.
D'accord. Des conditions qui les avaient favorisés, on va dire. Puisque Bayonne était plus sur un rugby de mouvement et puis ce soir-là, il fallait vraiment.
Ah, ce soir-là, il n'y avait aucun mouvement, à part
absolument.
Les poteaux qui bougent à cause du vent. Là, non, c'était. Et d'ailleurs, c'est Thibaut Domagna qui avait gratté le dernier ballon, pour vous dire quand même à quel point tout le monde a mis les mains dans le cambouis.
Ce jour-là, effectivement. Greg, avant que vous ne mettiez votre tom-tom configuré vers Rodez, quel score voyez-vous?
À Rodez, j'avais parlé de la section.
Parce que vous pouvez aussi, tout est ouvert.
Il y avait 20 à 18, effectivement, mais à la 79e, avant que Jesse Smog surgisse et n'inscrive l'essai de la victoire en coin, il ne sera donc pas transformé. Donc 23-20 pour la section paloise.
D'accord. Et à Rodez?
Et alors, à Rodez, figurez-vous que ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Néanmoins, je vois bien le nul, un partout, avant le back-to-back en Coupe de France et l'épopée en Coupe de France au pénalty, avec deux arrêts de Bertrand.
très bien, on avance dans les sous-catégories. Christian, vous êtes un éternel optimiste, je sais bien. Rodez, vous allez nous annoncer qu'on prend les 3 points. Ou alors?
Rodez est favori en tout cas sur ce match. Non, je partirai sur un match nul également.
Match nul également, pas de score, non, juste match nul.
Pas de score.
Quel prudent.
C'est facile, hein.
Ouais, c'est un peu facile.
C'est mon entrée en matière, donc on me laisse
son premier prono, donc il va avoir quelques petites opting out. Jean.
Alors, si pour faire un pronostic.
Et Lambernet Bourque.
Oui, même si on élargit un peu le spectre, si on prend les 5 derniers matchs de chacune de nos 3 équipes, je ne sais pas si on a une victoire. Donc, ce qui est la section peut-être. Mais l'élan qui reste sur 4 défaites, le POFC sur 4 ou 5, la section sur 4 sur les 5 derniers matchs, un truc comme ça. Donc, ça me paraît délicat d'envisager.
C'est pour ça que vous élargissez le spectre. Voilà. Le terme est choisi à dessein. Quoi.
Oui, et donc un 3 sur 3 des équipes Palos ce week-end, niette. 3 défaites.
3 défaites, très bien.
Malheureusement.
Et détailler un peu celle de.
Celle de l'élan. Celle de l'élan, je sais. Celle de l'élan, ouais. Celle de l'élan, ils vont pas tenir sur la distance. Ils sont dans le match jusqu'à la 25e et puis au fil des minutes. Je pense que Picot qui va se réveiller, Andjouzi, tu vas nous en mettre plein les dents et on va perdre 15 points samedi soir au Palais.
Eh bien, c'est sur cette note éminemment
optimiste
et réjouissante. Si j'avais une animation musicale avec de la lambada,
mais faites-nous mentir, messieurs, faites-nous mentir.
Mais je ne l'ai pas, donc on va faire autrement. On va se contenter de vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon week-end sportif. On vous retrouve la semaine prochaine pour voir si ces pronostics, c'est du délire ou s'il y avait quelque chose dans la galette, peut-être, on ne sait pas. En attendant, bonne journée, bon couvre-feu, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.